nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Le 10 janvier 2012, l'Académie nationale de médecine tenait séance sur le thème des nouvelles addictions. Marie-Christine Mourin, membre correspondant de l'Académie nationale de médecine et chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital Robert Debré, présentait cette séance et a introduit la communication de Marie-France Leheuzé, psychiatre pour enfants et adolescents, à l'hôpital Robert Debré également. Une communication qui s'intéressait ce jour-là à l'addiction aux jeux vidéo des enfants et des adolescents. Elles nous font l'honneur d'être ici aujourd'hui dans le studio de Canal Académie. Bonjour Madame Mourin.
Bonjour Monsieur.
Bonjour Madame Leheuzé.
Bonjour.
Alors vous avez écrit toutes les deux plusieurs ouvrages en collaboration. Je n'en citerai que deux. Phobie scolaire, comment aider les enfants et adolescents en mal d'école, aux éditions J. Lyon. Ou encore l'hyperactivité de l'enfance à l'âge adulte, aux éditions Douin. Alors le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les rapports qu'entretiennent les enfants avec les jeux vidéo. Suite à cette séance de l'Académie de médecine du 10 janvier, il y a eu un communiqué dans lequel l'Académie précise la terminologie adéquate pour parler de l'abus des jeux vidéo, et plutôt que le terme d'addiction, elle a préféré utiliser le terme de pratique excessive. Alors ma première question sera pour vous, Madame Mourin, vous qui êtes correspondante de l'Académie nationale de médecine. Il n'y a donc pas eu de consensus scientifique qui pourrait prouver une addiction aux jeux vidéo pour les enfants et les adolescents?
Exactement. À l'occasion de ce travail avec le docteur Marie-France Leheuzé, nous avons fait une revue de la littérature internationale et nationale récente et qui montre bien que les données ne sont pas assez fortes pour pouvoir parler d'addiction aux jeux vidéo. Les données cliniques, les données sur le devenir, les données, les critères, l'ensemble d'ailleurs des études, en particulier américaines ou anglaises, conseillent la prudence sur ces diagnostic d'addiction et encore plus de toxicomanie et conseille finalement plus de prudence avec une terminologie, je dirais, plus simple qui est celle d'usage excessif, qui est celle de pratique excessive ou d'usage problématique. Alors, il y a peut-être d'ailleurs des nuances entre usage excessif ou usage problématique, mais rien ne permet aujourd'hui, chez l'enfant et l'adolescent qui jouent à des jeux vidéo, de poser un diagnostic d'addiction. Et ça, là-dessus, on était assez ferme.
C'est-à-dire que, scientifiquement, le cerveau ne réagit pas de la même façon à une addiction, par exemple, à la nourriture, à l'alcool, qu'à une addiction aux jeux vidéo? Alors, je me tourne peut-être vers vous, Madame Leheuzé.
En disant qu'il y a, chez l'enfant et l'adolescent, il n'y a pas suffisamment d'études d'imagerie fonctionnelle qui permettent de répondre à votre question. Enfin, il faut là aussi être très prudent avec les données neurobiologiques ou neuroradiologiques. Je pense qu'on n'en est pas là. On n'en est pas à affirmer qu'il y a une réaction comme ça, identique, face aux jeux vidéo ou face à la cocaïne, etc.
Et alors, les caractéristiques de la dépendance aux jeux vidéo sont-elles les mêmes, finalement, que les caractéristiques d'addiction à d'autres drogues? Vous parliez de la cocaïne, de la nourriture, c'est-à-dire c'est quoi? C'est beaucoup de temps passé, une perte de temps, des horaires improbables?
Alors, justement, c'est que chez l'enfant et l'adolescent, pour l'instant, on ne peut pas vraiment démontrer de cas de réelle dépendance. C'est-à-dire que, certes, il y a des enfants et des adolescents qui jouent parfois toute la nuit, et qui, du coup, vont pas en classe le lendemain. Donc, il y a un handicap, il y a un retentissement sur la vie sociale, scolaire. Mais là, je vais faire un rapprochement avec la clinique. Ces enfants et ces adolescents, il nous est arrivé d'en hospitaliser dans le service où nous travaillons. Alors qu'ils jouaient toute la nuit, ils peuvent reprendre un fonctionnement normal, enfin, ou habituel, si on les recadre au niveau éducatif. et sans qu'ils se manifestent un vrai syndrome de manque si on les prive de plusieurs heures de jeu. Donc même le terme de dépendance est déjà à utiliser avec circonspection.
Et quels sont les instruments sur lesquels vous vous appuyez pour évaluer justement si un enfant est accro ou pas aux jeux vidéo ?
Alors, il y a toute une série d'échelles ou de questionnaires qui sont souvent d'origine anglo-saxonne ou asiatique, parce que les Asiatiques ont beaucoup étudié ces questions-là et donc ils proposent des questionnaires qui sont traduits en français. Mais le souci est que ces questionnaires ne sont pas validés, pas non plus dans leur pays d'origine, mais en tout cas pas dans le nôtre, puisque lorsqu'on traduit un questionnaire, il faut le revalider à zéro. Mais même les procédures de validation dans les pays d'origine où ils ont été élaborés, faits, construits, ne sont pas évidents. Alors, à partir de cela, on dira que ça aussi, ça reste à faire, mais qu'on doit être là également prudent sur la valeur de ces instruments et sur ce qu'on appelle leur fiabilité, leur validité, et surtout adapté à notre population française.
Moi, j'ajouterais que ce qui nous paraît important, c'est pas de faire un diagnostic comme ça dans l'absolu. Je reviens sur un point encore une fois essentiel, c'est le retentissement sur la vie du jeune. C'est-à-dire que si un jeune joue, on va dire, de 2 heures par jour, mais qui en même temps, il travaille très bien à l'école, qui fait du tennis, qui voit ses parents, qu'il a des copains, il a le droit de jouer aux jeux vidéo. Par contre, un jeune qui joue la même quantité de temps, mais qui à côté de ça ne fait pas ses devoirs, refuse de voir ses parents, s'enferme dans sa chambre et aucun copain, celui-là, je pense qu'il va pas bien.
Et alors, dans votre communication, Madame Lehezé, vous dites que l'un des facteurs de risque majeur, ce sont les troubles de déficit de l'attention et l'hyperactivité suite peut-être à une pratique excessive des jeux vidéo.
En effet, dans la littérature scientifique, il n'est pas facile de mettre en évidence en effet les facteurs de risque. Néanmoins, plusieurs auteurs ont montré le risque pour les enfants souffrant de troubles déficit de l'attention et hyperactivité. Ces enfants sont particulièrement attirés par les jeux vidéo parce que ces jeux donnent des récompenses immédiates, sont très satisfaisants pour ces enfants qui sont souvent mauvais à l'école, mal perçus à l'école, alors que dans les jeux, là au moins, ils ont des récompenses et des renforcements, on va dire. Mais ce qui est compliqué, en effet, dans cet échange, on va dire, entre jeux vidéo et troubles déficit d'attention, c'est qu'à la fois, l'enfant qui a ce trouble, il est attiré par les jeux vidéo, mais les jeux vidéo, pour certains, aggravent le trouble de l'attention. Et par contre, d'autres jeux peuvent au contraire améliorer son trouble de l'attention. Donc finalement, il y a une interaction bidirectionnelle entre les caractéristiques de l'enfant et les caractéristiques du jeu. Il y a un certain nombre de recherches assez intéressantes justement pour travailler justement sur cet aspect bidirectionnel entre l'attention et les jeux.
Mais il faut bien comprendre que les jeux vidéo, qu'aujourd'hui on veut dédiaboliser, pas leur attribuer plus de risques que ce qu'on dit, les jeux vidéo ne créent pas le trouble hyperactivité déficit de l'attention. C'est le trouble hyperactivité déficit de l'attention peut être en résonance particulière avec les jeux vidéo, mais il n'est pas question que de dire que l'un cause l'autre. C'est bien plus complexe qu'une simple conséquence des jeux vidéo. Ça serait certainement caricatural. Les parents des enfants hyperactifs ont remarqué leur attrait souvent excessif pour les jeux vidéo. Ils sont là-dessus assez nuancés, parce que certains voient bien que l'attrait est excessif, mais d'autres voient aussi que les enfants se calment devant les jeux vidéo, ce qui n'est pas négligeable de la part d'un enfant souvent très agité et très dispersé. Donc, inconsciemment, les parents ne sont pas contre. Mais là où les parents, quelquefois, disons, ne voient pas tout à fait clairement, c'est qu'ils disent que l'enfant est très performant dans les jeux vidéo, leur enfant est très attentif aux jeux vidéo. Et il y a eu des études qui ont montré que ce n'est pas vrai pour tous les enfants et que tout un certain nombre d'enfants hyperactifs ont de faibles performances aux jeux vidéo, finalement, en particulier du fait de leurs troubles, de leur concentration et de leur impulsivité. D'autres sont aidés, mais c'est qu'une petite minorité ou un sous-groupe. Donc finalement, et malheureusement, lorsqu'on examine les choses de près, il n'y a pas une performance obligatoire plus grande chez ces enfants-là aux jeux vidéo, sauf encore une fois un petit groupe qui peut être un tout petit peu calmé. Mais ce ne sont pas des domaines où ils s'en sortent si bien que ça, finalement. Voilà, donc on ne va pas désespérer les parents en leur disant ce que je vous dis. Mais voilà la vérité.
Merci Madame Mourin. Et alors, dans la palette des jeux vidéo qui existent aujourd'hui, est-ce que vous pourriez définir ceux qui sont le plus dangereux, finalement, pour l'enfant et l'adolescent? Il y a donc des jeux, par exemple, on en a parlé, des jeux de sport, des jeux de simulation de vie aussi, qui sont peut-être ceux qui enferment le plus l'enfant dans un monde virtuel.
Je trouve justement que dans les études portant sur les jeux vidéo, il y a très peu d'études qui justement analysent les bénéfices et les inconvénients spécifiques de chaque type de jeu. Certains types de jeux comme les jeux de tir, de visée, ceux-là sont un peu plus étudiés parce qu'en effet, on évalue leur intérêt éventuel justement pour améliorer les capacités d'attention fine et de vision des détails. Mais moi, je ne connais pas d'études qui ont vraiment comparé, par exemple, les jeux sportifs à des jeux de simulation de vie, etc. Donc, je peux pas, malheureusement, je peux pas répondre à cette question. Et puis, il y a des joueurs dans les jeux massivement multijoueurs, enfin, les fameux jeux où on est vraiment très immersif, qui ont une très bonne insertion sociale par ailleurs et qui n'ont pas de conséquences négatives importantes. Donc, je peux pas les qualifier de mauvais jeux. Il y a même une étude d'un auteur assez célèbre dans le domaine des jeux vidéo qui montre que même les jeux violents peuvent avoir un intérêt pour les enfants, pour leur apprendre un certain nombre de qualités comme la persévérance, faire face à l'adversité, ne pas se décourager. Donc il y a même des auteurs qui trouvent des bénéfices aux jeux violents, alors que quand même les jeux violents peuvent poser d'autres problèmes.
Madame Mourin, sur cette question des jeux vraiment qui entraînent l'enfant dans une vie virtuelle, est-ce que vous pensez pas que ces jeux-là sont peut-être plus dangereux que d'autres plateformes ?
Je pense que la dangerosité, c'est un tout, et que la fragilisation d'une personne, sa vulnérabilité, c'est un tout, c'est multifactoriel. Il y a beaucoup de composantes qui entrent en jeu, alors que les jeux vidéo très violents, très virtuels, puisse être une de ses composantes, je crois que je serais malvenue de dire certainement pas, et parce que je n'aurais pas de preuves de dire cela. Mais en aucun cas, un passage à l'acte violent, on a eu des exemples hein, dans les derniers mois ou années, ne peut être mis vraiment d'une façon claire en rapport avec un attrait pour des jeux vidéo. Il faut, encore une fois, des facteurs, à mon avis, de personnalité ou des troubles psychiatriques, souvent pas encore diagnostiqués. Bon, le jeu vidéo apporte peut-être un poids supplémentaire, mais en aucune façon il fera le meurtrier ou le passage à l'acte violent. Moi, j'ai du mal à croire ça, quand même.
Dernièrement, dans l'actualité... Le tueur norvégien, et même en France, les quatre mineurs de Dieppe qui ont tué et brûlé un de leurs camarades. Ouais. Enfin, dans leur défense, ils jouaient beaucoup aux jeux vidéo, etc. Alors, est-ce que ce raccourci est trop facile pour vous ?
Ce raccourci est trop facile et ça fait de nombreuses années, en particulier aux États-Unis, où il y a périodiquement des procès, des remises en question. Alors, avant que ce soit les jeux vidéo, c'était la télévision et les feuilletons violents, les films d'horreur. C'est qu'en effet, quand il y a un meurtre horrible commis par un jeune adulte ou un adolescent, on a tendance à dire « Ah, mais il aimait telle série télévisuelle ou il aimait tel jeu, je ne veux citer personne. » Et comme l'a dit juste avant Madame Mourin, ça n'intervient que soit un trouble de la personnalité, soit un trouble psychiatrique, enfin, il y a autre chose. Enfin, je trouve que c'est vraiment un raccourci abusif de dire que c'est la faute du jeu. Certains travaux montrent aussi que l'attraction pour certains types de jeux, pour certains feuilletons, pour certains films, peut être sous-tendu par déjà le trouble de la personnalité.
Voilà, il y a déjà un terreau à la base.
Il y a un terreau, comme vous le dites. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas faire un raccourci.
Et alors maintenant, si on parlait des points positifs des jeux vidéo, parce qu'il y en a aussi, vous avez commencé à nous en parler, Madame Lehezé. Alors, vous parliez de cette récompense immédiate qui peut-être stimule l'enfant et peut l'entraîner dans la vie réelle à se dépasser, à se surpasser pour atteindre des objectifs. Quel autre point positif vous accorderiez aux jeux vidéo ?
Bah, c'est un jeu déjà, donc ça distrait. Il faut quand même pas oublier que le jeu chez l'enfant et l'adolescent, c'est indispensable. Donc ça peut être récréatif, ça peut être créatif, parce que quand on crée son avatar, il y a un côté création, il y a invention. C'est pas complètement formaté à l'avance dans certains jeux. La persévérance, faire face à l'adversité, ne pas se décourager, donc là, tout ce qu'aspect pugnacité. Et puis, quelque part, ça fait du bien à l'ego de certains enfants de se dire « bon, là, au moins, je réussis. Je réussis dans quelque chose. » Un enfant qui a, comme souvent, enfin, des difficultés scolaires importantes, où il est toujours traité comme le nul, là, ça lui renvoie une image qui peut être positive.
Vous, Madame Bourin, sur cette question des points positifs des jeux vidéo, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ?
J'essayais de me souvenir, mais ma collègue va m'aider si besoin, dans ce qu'avait dit cette auteure, Madame Bavelier. Alors, elle avait cité un exemple particulier de jeux vidéo, qui étaient des jeux vidéo d'action.
Oui, c'est justement les jeux de vidéo d'action où il faut viser les first person shooting, ou qui peuvent en effet améliorer les capacités de vision des détails, les capacités d'attention et de vision précise. Et il y a eu des travaux donc plus récemment qui semblent confirmer ça et qui par contre ne confirment pas que ça puisse améliorer l'impulsivité. Mais enfin ça c'est vraiment des travaux expérimentaux, c'est quand même assez fin.
Ce sont des travaux d'un chercheur de Genève. Voilà, et donc en neurosciences finalement, ça rejoint des travaux en neurosciences.
Maintenant, évoquons la place des parents, puisque c'est là aussi le nœud de cette problématique des pratiques excessives des jeux vidéo. Alors, que dire à ces parents qui voudraient réduire le temps que passent leurs enfants sur leur console de jeu ? Madame Lehezet, peut-être d'abord ?
Je dirais que les jeux vidéo, c'est comme l'alimentation. Ce n'est pas seulement le temps passé, c'est aussi la qualité. Et que les parents, en premier lieu, doivent être présents pour le choix des jeux vidéo. Et que les parents doivent s'informer correctement des catégories de jeux adaptées pour tel et tel âge. Et qu'on sait bien dans les enquêtes que beaucoup de jeunes entre 14 et 16 ans jouent en fait à des jeux interdits aux moins de 18 ans. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui jouent la nuit en cachette des parents. Donc, en tout cas, le choix des jeux est vraiment le devoir prioritaire des parents. Et faire attention aussi que l'enfant de 5 ans ne dispose pas des jeux de son frère de 17 ans. C'est-à-dire que les jeux ne doivent pas être en libre-service. Parce que beaucoup de parents, comme les jeux vidéo, ça leur fait un peu peur, ils disent on n'y connaît rien, ils ne s'informent pas toujours assez sur ce choix. Et après, pour le temps passé, il faut qu'ils fassent respecter, je veux dire, la vie familiale, les repas, les temps de sommeil, les temps de devoir, les temps d'école. Et puis proposer aussi autre chose à l'enfant. Parce qu'il y a des parents qui se plaignent, mon enfant passe tout son dimanche scotché à ses jeux, mais que propose-t-il en alternative ?
Mais est-ce que justement sur cette question de jeux interdits à certains âges, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une certaine naïveté ? C'est-à-dire que si sur un jeu il y a marqué interdit aux moins de 16 ans, c'est très bien que les enfants de moins de 16 ans vont se ruer dessus.
Alors en effet, certains auteurs ont parlé de l'attractivité des fruits défendus.
Voilà, comme tout, dans d'autres domaines.
Comme dans d'autres domaines, certes. Mais je pense que quand même, c'est pas normal, parce que moi, j'ai quand même vu des enfants très jeunes jouer à des jeux, bon, que je vais pas nommer, mais qui sont des jeux pour adultes. Et vraiment, quand on est un parent responsable, on peut pas laisser faire ça.
Et est-ce qu'il y a des symptômes qui pourraient faire dire à un parent que son enfant glisse vers une dépendance des jeux vidéo, Madame Mourin ?
Alors, je dirais que bon, on a essayé d'atténuer la mauvaise réputation des jeux vidéo. On a dit qu'il fallait pas parler, enfin qu'il n'était pas très licite de parler de dépendance, de parler d'addiction. Mais c'est pas pour autant quand même, on n'accepte pas l'idée de pratique excessive. On sait très bien qu'il y a des enfants qui jouent excessivement aux jeux vidéo. Alors le problème, c'est comment dire que c'est excessif. Ça, c'est aussi le rôle des parents de juger cet adjectif. Est-ce qu'il s'applique à leur enfant ? Est-ce que la pratique est excessive ? Est-ce que la pratique est problématique ? Je crois que les parents sont quand même les mieux placés, plus que le médecin, le pédiatre ou toute autre personne, pour apprécier éventuellement le côté excessif ou problématique. Alors, les parents doivent s'assurer, ben, je dirais, que les grandes fonctions de l'enfant, le sommeil, l'alimentation, sont respectées, Madame Leuze l'a dit. Que le temps scolaire, les devoirs sont faits. Que l'enfant garde quand même un certain nombre d'activités amicales ou familiales. Encore une fois, les parents doivent vraiment évaluer ça. Ce sont aussi des évaluateurs, les parents. Et puis, si vraiment à ces questions, la réponse est oui, il y a un retentissement, oui, il y a une influence négative sur tous ces domaines, ben, les parents doivent aussi petit à petit, probablement peut-être pas d'un coup, mais limiter le nombre d'heures, tout au moins les réduire. On peut penser que progressivement, c'est peut-être mieux que d'un jour à l'autre. Parce que ces enfants sont souvent des enfants, et ça les parents le disent bien, surtout lorsqu'ils sont hyperactifs, qui réagissent très négativement aux frustrations, par des colères violentes et quelque peu dépassant le cadre de l'interdiction parce que c'est assez problématique. Donc je dirais qu'à ce moment-là, bah, ils doivent essayer de faire un retour en arrière sur le nombre d'heures passées. Il faudrait certainement aussi que les pédiatres soient plus avertis de ce que nous disons pour qu'ils puissent aider aussi les parents dans des conseils éducatifs. Mais ça, c'est un souhait, mais ce n'est peut-être pas encore complètement la réalité. Les parents aussi doivent veiller à ce que peut-être l'enfant n'ait pas trop d'écran à sa disposition dans sa chambre, parce que ça, c'est contradictoire. Et puis, la dernière chose qu'on s'était dit, c'est que les parents ne doivent pas eux-mêmes passer trop de temps aux écrans et en même temps qu'ils interdisent à leurs enfants.
Voilà,
il faut être cohérent.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2012, est-ce que les parents montrent vraiment le bon exemple
C'est tout à fait ça. Je crois qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « tu vas t'arrêter » et se mettre soi-même à pianoter pendant des heures. Enfin, le bon sens, toujours le bon sens. Pas obligatoirement un savoir académique, mais le bon sens.
Ah, Madame Leuze, est-ce que dans vos consultations, vous remarquez que les garçons sont peut-être plus touchés par une addiction aux jeux vidéo que les filles ?
Les garçons semblent jouer plus que les filles. Par contre, les filles téléphonent beaucoup. Enfin, quand je dis téléphone, vous savez bien que je parle du téléphone au sens large. Je sais que maintenant, avec les téléphones intelligents, de toute façon, les enfants, garçons et filles, jouent avec ces justement, puisque maintenant, c'est des petites consoles de jeu, en quelque sorte. Là, finalement, avec ces nouveaux petits instruments, filles et garçons sont très, très exposés avec la grande, grande utilisation des réseaux sociaux. Et justement, entre réseaux sociaux et jeux, là, après, on franchit le pas assez facilement.
Mais justement, maintenant, aujourd'hui, en 2012, est-ce que cette nouvelle approche des consoles de jeux, des concepteurs des consoles de jeux, c'est-à-dire qu'il y a plus de mobilité, on peut l'amener partout, est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, aider, favoriser la sociabilisation de l'enfant ? C'est-à-dire qu'il peut partager pendant la récréation, pendant ses voyages dans le train, il peut partager avec d'autres enfants et finalement agrandir sa bulle sociale.
C'est une bonne publicité pour les fabricants de tablettes et de consoles et de téléphones. De toute façon, on ne peut pas y échapper. Cette nouvelle technologie, elle existe, on ne va pas revenir en arrière. Non, ce qui est sûrement triste pour les enfants comme pour les adultes, c'est de voir, ça on en voit beaucoup, des groupes d'adolescents où chacun... Enfin, où ils sont un groupe, assis par terre, par exemple, où chacun a l'air d'être en face à face avec son écran de téléphone, alors que ce serait peut-être plus sympa qu'ils soient humainement face à face. Mais ça, je dirais que c'est aussi un défaut que partagent beaucoup d'adultes actuellement.
Alors maintenant, on va passer à des questions d'auditeurs. Donc j'ai une première question. Est-ce que jouer sur son ordinateur, par exemple à des jeux d'échecs, à des jeux de cartes, c'est aussi jouer aux jeux vidéo et est-ce que ça peut aussi être dangereux ? Madame Morin ?
Moi, je dirais qu'il n'y a pas de bonnes notes à attribuer à certaines activités et de moins bonnes notes à d'autres. Pour les jeux d'échecs, on fera la même réflexion que pour les jeux vidéo plus récréatifs. Tout dépend s'il existe ou non un usage excessif et par usage excessif, on a bien dit, retentissement et diminution sur le reste des activités de l'enfant. Alors, au risque de les traiter de la même façon que les jeux vidéo, je dirais que s'il y a un retentissement parce que l'enfant passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur ces jeux d'échecs, je dirais que ça peut devenir, à ce moment-là, un usage excessif et donc problématique. Au fait, c'est pas finalement la nature du jeu qui compte que la façon dont ce jeu est employé par l'enfant et ce qu'il en fait. Quelque chose de raisonnable ou quelque chose de problématique. Et les échecs n'échappent pas à cette règle.
Alors une autre question maintenant d'un auditeur. Mon enfant joue beaucoup aux jeux vidéo, mais ne risque-t-il pas de tomber dans une autre addiction quand il sera adulte pour remplacer celle qu'il a connue avec les jeux vidéo ? Madame Lehezé ?
Moi, je dirais qu'aucun travail scientifique ne permet de dire une chose de cet ordre. C'est absolument pas démontré. Et encore faut-il que cet enfant ait vraiment, comme sa maman le dit, est-ce que vraiment il est si accro que ça aux jeux vidéo ? Non, il n'y a pas d'argument pour avoir une prédiction négative, on va dire.
Merci Madame Lehezé. Et enfin, j'aimerais consulter votre avis sur ces nouvelles consoles de jeux qui mettent encore plus le corps en action, c'est-à-dire je pense à la Wii, etc., et qui finalement gomme un problème qu'on a pu rencontrer avec les anciennes consoles de jeux, c'était la sédentarité. Et là aujourd'hui, est-ce que finalement ces nouvelles consoles de jeux n'apporteraient pas d'autres points positifs ?
Oui, en revanche, il y a des publications assez nombreuses finalement, surtout américaines, qui montrent justement les aspects positifs de ces consoles actives, on va dire.
Où le joueur est actif.
Où le joueur est actif, où en effet, ces travaux montrent que ces jeux ont moins de conséquences sur la prise de poids ou des choses comme ça. Donc en effet, il y aura un côté bénéfique et un côté en effet plus interactif puisqu'on peut jouer avec ses frères et sœurs, avec ses parents, avec ses copains. Il y a sûrement un côté qui rapproche ces consoles vraiment là de jeux, on va dire, plus traditionnels, on va dire, ou de sport.
Moi, je voudrais mettre en garde les parents alors sur toute autre chose. C'est sur l'impact aujourd'hui des jeux d'argent en ligne, certes interdits aux mineurs, mais où il semble que les mineurs peuvent, sur certains sites, s'entraîner à coût nul. Donc ça pourrait avoir l'air innocent, mais c'est une habitude qu'ils prennent de jouer en ligne, et quand même il est question d'argent ou de gains. Même si ces pratiques ont l'air sans conséquences, elles sont une sorte de préparation à d'éventuels jeux d'argent en ligne qui se feront dès qu'ils seront majeurs ou qui pourront se faire dès qu'ils seront majeurs ou même, disons-le, avec la carte bleue des parents, certaines fois en cachette. Donc là, il y a un côté sans doute de prévention qui est vraiment l'affaire des parents. Alors les parents peuvent beaucoup plus que ce qu'ils croient. Ils se croient souvent impuissants, mais en réalité, ils ont la main et ils sont des facteurs de protection. Donc, qu'ils se souviennent toujours de ça. Sans parents, les enfants ne peuvent pas grand-chose. Alors, il faut les revaloriser.
Eh bien, c'est sur ces paroles d'espoir et d'optimisme que nous allons conclure cette émission. Merci, Madame Mourin. Merci, Madame Lehezé.
Merci beaucoup à vous.
Ah, merci, monsieur.
Thank you.